Je garde de très très beaux souvenirs du culte de la rentrée et de week-end ensemble qu'on a pu passer. Et j'ai découvert cette assemblée. Maintenant, je suis chez vous ici. Je vois l'assemblée, l'église, le bâtiment et je vous vois là et je peux adorer avec vous. Donc c'est vraiment une grande joie pour moi. Alors le texte qu'on va étudier ce matin, vous l'avez vu déjà, c'est un texte assez court en fait. Vous avez remarqué, 7-8 versets à peine. Mais dans un texte bref comme celui qu'on vient de voir là, vous allez remarquer qu'on trouve plusieurs éléments uniques. De là le titre « Une venue unique ». Il y a plusieurs éléments uniques dans ce texte-là. Tout d'abord, Matthieu raconte, et vous allez le voir, on va approfondir ça, Matthieu raconte une situation unique. Puis, on va remarquer qu'il y a une annonce unique. Ensuite, on va parler d'une mission unique qui va être suivie d'un impact unique. Donc, on va prendre ces quatre points l'un après l'autre. Situation unique, annonce unique, mission unique, impact unique. Mais avant de prendre ces points, j'aimerais qu'on prie tout simplement. On va demander au Seigneur son aide. On a besoin de son aide pour être touché par sa parole. Seigneur, merci pour ta présence parmi nous, maintenant. Seigneur, tu es avec nous, tu l'as promis tous les jours jusqu'à la fin du monde. Merci Jésus, Seigneur, pour le temps que tu nous as donné à chanter tes louanges, à partager, à pouvoir exprimer, Seigneur, le fait que tu es vivant dans le quotidien et dans notre vie de tous les jours. Maintenant, Seigneur, nous remettons ce message entre tes mains. Nous voulons te dire qu'on a besoin de toi. Seigneur, on a besoin que tu interviennes par ton Saint-Esprit. Fais-le, s'il te plaît, au nom de Jésus. Amen. Alors, le texte choisi cet après-midi raconte l'histoire de la nativité, cette saison, l'histoire de Noël. C'est dans l'évangile de Matthieu, on l'a vu, tout début du premier évangile, premier livre du Nouveau Testament. Et c'est à la fin du chapitre 1. Si vous avez lu Matthieu déjà et le chapitre 1, vous avez découvert que dans la première partie du chapitre, on trouve quoi ? On trouve une généalogie, une longue liste de 42 noms. Waouh ! Et certains de ces noms sont presque imprononçables. Alors, qu'est-ce qu'on fait d'habitude quand on commence le Nouveau Testament à Matthieu ? Eh ben, beaucoup de gens, et vous allez peut-être l'avouer avec moi, on saute tout simplement la généalogie. Mais je crois que c'est une erreur. Je crois que c'est une erreur. Pourquoi Matthieu commence avec une généalogie dans son évangile ? Par accident ? Non. C'est intentionnel. C'est intentionnel. En nous donnant la lignée des ancêtres de Jésus, qu'est-ce que Matthieu est en train de faire ? Matthieu veut faire comprendre que Jésus a le droit de régner sur le peuple de Dieu. C'est ça que Matthieu est en train de faire en donnant cette longue liste. Jésus a le droit de régner sur le peuple de Dieu. Ça, c'est une première chose. Cette liste sert aussi à démontrer que Jésus, c'est un vrai fils d'Israël. Un vrai fils descendant d'Abraham, à qui Dieu avait promis quoi ? À qui Dieu avait promis la bénédiction pour toutes les nations, toutes les familles de la terre. Matthieu veut prouver ça. Fils de David, fils d'Abraham. On voit que dans cette longue liste d'ancêtres, on voit que par Jésus, on peut aussi revenir de l'exil. La généalogie nous montre que le peuple avait été envoyé en exil à cause de ses péchés. Et à la fin de toute cette liste, on voit Jésus qui est l'aboutissement et le retour de l'exil spirituel dans lequel tout être humain naturellement se trouve à cause de son péché. Qu'est-ce qui permet à un être humain de revenir de l'aliénation, de l'éloignement de Dieu, du péché ? C'est Jésus-Christ. Par Jésus, on peut aussi être inclus dans la famille de Dieu. Vous avez remarqué une longue liste. Ça, c'est la famille de Dieu. On peut être greffé à la lignée de Jésus aujourd'hui. Peu importe notre arrière-plan, peu importe notre passé. Jésus donc, un vrai homme, un fils de David, un fils d'Abraham. Ça, c'était la première partie du chapitre 1, la généalogie très importante pour Matthieu quand il commence son évangile. Mais cet après-midi, notre texte va mettre en évidence un autre aspect de la personne de Jésus, très important également. Et j'aimerais relire le texte avec vous. On l'a déjà lu, mais on va le relire pour que ces vérités-là nous pénètrent. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, étant fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien, qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Et comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Et tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Verset 24. Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme avec lui, mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Matthieu chapitre 1, 18 à 25. J'aimerais vous faire remarquer, en commençant, juste un tout petit mot au début du verset 18. C'est le même mot qu'on retrouve au verset 1, mais il y a un « hic ». Dans votre traduction française, vous n'allez pas voir que c'est le même mot. C'est aussi le même mot qu'on retrouve au tout début de la Bible. Et quel est ce mot? C'est le mot « Genèse ». Le mot « Genèse » qui se trouve au verset 18, au verset 1 et au début de la Bible. Comme si Matthieu voulait nous ouvrir une porte pour nous faire comprendre que ce qui se passe ici, c'est une sorte de Genèse avec un nouvel Adam. Genèse, qui est traduit au verset 1 par généalogie, au verset 18 par le mot naissance ou dans d'autres traductions le mot origine. Genèse. Et l'usage de ce mot, pour Matthieu, il est voulu. C'est intentionnel. C'est pas un hasard que Matthieu ait utilisé ces mots-là au verset 1 et 18. Donc, des versets 1 à 17, Matthieu nous présente, on l'a dit, la genèse de Jésus d'un point de vue humain. Alors, telle engendra-t-elle, et on voit qu'il y a une lignée humaine, des versets 1 à 17. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Jésus est un vrai homme. Il est issu d'une vraie lignée de vrais hommes. Mais des versets 18 à 24, il est question de la genèse de Jésus d'un point de vue divin. On va prendre le temps d'examiner la suite du texte d'un peu plus près maintenant. Donc la genèse de Jésus d'un point de vue divin. Au début de notre texte cet après-midi, on retrouve deux personnes. Si vous avez lu le Nouveau Testament, vous connaissez bien les noms de ces deux personnes. C'est Marie et Joseph. Vous connaissez. Ceux qui ont lu la Bible connaissent. Et Marie et Joseph, ils habitent tous les deux à Nazareth, un tout petit village de Galilée. Et la Galilée, ça se trouve au nord d'Israël. Marie et Joseph sont fiancés. Ils ont projeté de se marier. Un beau projet, ça. Il y en a peut-être ici qui projettent de se marier, je ne sais pas. Mais eux, ils avaient projeté de se marier. Beau projet. Alors, vous allez me dire, jusque-là, il n'y a rien de très unique dans cette histoire, n'est-ce pas? Normal. Il y avait des tas de personnes qui se fiançaient en Israël tout au long de l'année. Donc, Des fiançailles, finalement, c'était assez banal, ordinaire. Mais il faut tout de même expliquer qu'à l'époque de Jésus, chez les Juifs, les fiançailles, ça n'avait rien à voir avec nos fiançailles ici en France. Et là, j'explique. En se fiançant, on était lié légalement à son fiancé. C'était comme un contrat légal. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, ça? Ça veut dire que si l'un des deux voulait sortir des fiançailles, le fiancé ou la fiancée, il fallait se divorcer. Aussi sérieux que ça. Ça veut dire aussi que si par malheur, le fiancé ou la fiancée décédait, l'autre devenait veuf ou veuve. Sérieux, ça? En gros, en se fiançant, on était comme marié sans que le mariage ait été consommé physiquement. Comprenez, c'est pas comme nos fiançailles ici en Occident. C'était beaucoup plus fort, beaucoup plus engageant que nos fiançailles à nous. Alors Marie-Joseph, des fiancés, on vient de dire, ordinaires, mais qui vont se retrouver dans une situation extraordinaire. Une situation, en fait, très, très compliquée. Une situation que moi, je ne souhaiterais à aucune personne ici. Vous allez comprendre. Imaginez la scène. Un jour, Marie prend son futur mari à part, son futur époux, et elle a quelque chose d'important à lui dire. Alors, vous, les messieurs, quand votre fiancé ou votre futur époux ou votre époux vous dit « Chérie, j'ai quelque chose à te dire », vous avez intérêt à écouter, n'est-ce pas? Très important. Alors Marie a dit « J'ai quelque chose à te dire, Joseph ». Alors, Joseph, il s'assoit. Hein? « J'ai une nouvelle à t'annoncer ». Alors imaginez Joseph « Ok, chérie, de quoi s'agit-il ?» Et là, les paroles de Marie ont l'effet d'une bombe. « Je suis enceinte. » Aïe, aïe, aïe. « Quoi ? J'attends un bébé. Hein ? Non. » Et là, il y a un grand silence. Imaginez. Grand silence. « C'est pas ce que tu penses, Joseph. C'est pas ce que tu penses. Laisse-moi t'expliquer. » Et Marie explique, mais Joseph reste perplexe. Alors, comment est-ce qu'on gère ce genre de situation? Comment est-ce que vous, messieurs, vous auriez géré ce genre de situation? Pas facile, hein? Compliqué. Je vous l'avais dit. Au premier siècle, c'est vrai qu'on ne lapidait plus systématiquement les personnes adultères en public. Ça se faisait peut-être quelques centaines d'années auparavant, mais au temps de Jésus, c'était pas systématique. Ça pouvait se faire, mais pas systématiquement. Même si le Deutéronome au chapitre 22 commandait de lapider les adultères qu'on prouvait adultères. Ça se faisait plus systématiquement. Les Juifs avaient trouvé, comme c'était leur habitude à eux, le moyen d'adoucir, de contourner la loi de Moïse, qui était pourtant très claire. Alors, qu'est-ce qu'on pouvait faire? Au lieu de lapider, on pouvait soit présenter la personne coupable devant un tribunal, et là, on la sanctionnait. Elle était humiliée publiquement, le nom de sa famille était sali, déshonoré, c'était grave. Ou soit, il y avait une autre option aussi. C'était de tout régler en privé devant des autorités, sans passer par les tribunaux. Ça pouvait se faire. Alors, qu'est-ce qu'il faisait, le mari? Il devait se trouver deux témoins pour prouver l'infidélité de sa fiancée. Il devait payer une amende de 100 shekels. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Ça veut dire à peu près 1000 euros. Aïe! Petite fortune pour Joseph. Joseph était pauvre. Vous vous souvenez, 8 jours après la naissance de Jésus, il fait les rites de purification. Et là, au lieu d'offrir les sacrifices ordinaires, il doit offrir 2 tourterelles. Pourquoi? Parce qu'il est pauvre, Joseph. Donc, Joseph était pauvre, mais il préférait cette solution de payer plutôt que d'attirer la honte sur Marie et sur sa famille. Voyez-vous le genre de personne qu'était Joseph. Donc une situation qui sort de l'ordinaire, unique, du jamais vu. Et je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais en lisant ce texte, vous avez peut-être du mal comme moi avec ce que Marie annonce à Joseph. C'est dur à avaler quand même ça. Elle est enceinte, elle n'a pas trompé Joseph. Imaginez Joseph un instant. Si c'est difficile pour vous de l'accepter, imaginez Joseph, combien ça a dû être difficile. C'est sa fiancée, c'est son avenir, c'est sa réputation, c'est sa crédibilité qui sont en jeu ici. Voyez-vous, c'est dur. Alors qu'est-ce qui se passe? Dans un premier temps, Joseph appréhende la situation comme vous et moi on l'aurait fait. Alors il a une compréhension tout à fait naturelle des événements. Il se dit, c'est pas moi le père, et quoi qu'elle en dise, Marie, elle a dû connaître un autre homme, elle m'a trompé, elle a désobéi à Dieu. Et puis là, avec sa compréhension naturelle de la situation, Joseph ne peut pas faire autrement que de mettre fin aux fiançailles. C'est ce qu'on lit ici. Et qu'est-ce qu'il fait? Il se prépare à rompre. Et il va faire ce qu'il a prévu de faire, sauf qu'il y a une annonce unique. Pour empêcher Joseph de faire ce qu'il a décidé, Dieu prend les grands moyens. Dieu intervient lui-même. Dieu parle à Joseph par l'intermédiaire d'un ange. Annonce unique. Un ange qui lui parle pendant son sommeil. Et ça, mes amis, c'est assez inhabituel. Alors peut-être qu'on peut avoir cette idée, nous, aujourd'hui, que les Juifs du 1er siècle, ils voyaient des anges à tous les coins de rue. Ça faisait partie de leur vie normale, les anges, il y en avait partout, et ils en voyaient tout le temps. Non. C'était pas le cas. Autant l'apparition d'un ange vous bouleverserait, vous, aujourd'hui, si ça vous arrivait, autant Joseph a été profondément marqué par cette expérience qu'il a vécue, l'apparition d'un ange. Ça l'a marqué lui-même. Et je ne sais pas, vous avez vu l'Ancien Testament, vous avez lu les textes. Déjà dans l'Ancien Testament, le témoignage qu'on a de personnes à qui un ange était apparu, c'est à peu près toujours la même chose qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Un ange apparaît, la personne est terrifiée. Elle est terrorisée, elle est foudroyée, elle pense qu'elle va mourir. Et là, la plupart du temps, l'ange doit rassurer cette personne en parlant. Et la plupart du temps, l'ange doit dire « N'aie pas peur, ne crains pas. » Et c'est exactement ce qui se passe ici. Première parole de l'ange à Joseph, « N'aie pas peur, ne crains pas de prendre Marie pour femme. » Remarquez comment l'ange appelle Joseph quand il s'adresse à lui, au tout début. C'est très intéressant. Qu'est-ce que l'ange dit à Joseph? Il le nomme « fils de David ». Ah, tiens. Savez-vous qu'à part Jésus, Joseph est la seule autre personne dans les évangiles qui est appelé le fils de David? Saviez-vous ça? Seulement Joseph est appelé fils de David à part Jésus dans les évangiles. C'est très significatif, ça. Dans la première partie du chapitre 1, je l'ai dit, dans la généalogie de Jésus, le fait que Joseph soit le fils de David, c'est hyper important, capital. L'enfant que Marie porte aurait le droit d'être le roi parce que Joseph est fiancé à Marie. Il est le fils de David et le droit légal passe par l'homme, par Joseph. Donc, c'est pas rien que l'ange lui dise « Écoute, Joseph, tu es le fils de David ». C'est d'ailleurs cela que Matthieu veut prouver au début de son évangile. Fils de David, aspirant au roi, à la royauté. Et donc l'ange aborde Joseph, il l'interpelle et il lui rappelle qui il est. Joseph, tu dois savoir qui tu es un fils de David. Ça a du sens dans le plan de Dieu que tu sois un fils de David. Et il commence comme ça. Et ensuite, l'ange apporte à Joseph le point de vue de Dieu sur la situation. Est-ce que vous avez, vous, dans votre vie, des situations où vous êtes la tête dans le guidon et vous n'arrivez pas à voir qu'est-ce que Dieu est en train de faire et on a besoin que Dieu nous montre son point de vue? Humainement parlant, on n'arrive pas à comprendre ce qui se passe. Et là, Dieu, dans sa grâce, par l'ange, montre à Joseph son point de vue sur la situation. Alors, qu'est-ce que Joseph apprend de l'ange? Au moins six choses. On va les voir une après l'autre. Premièrement, l'ange apprend à Joseph que Marie n'a pas menti. Ta fiancée n'est pas une menteuse. Elle t'a pas trompé. Elle t'a dit la vérité. Le bébé qu'elle porte ne vient pas d'un adultère. Jésus n'est pas un bâtard. Il n'est pas un enfant illégitime. Il a été engendré du Saint-Esprit. Une conception surnaturelle. Une origine à la fois humaine et divine. Joseph avait besoin qu'on lui explique ça. Et l'ange lui dit, c'est important. Deuxièmement, l'ange apprend à Joseph que ce bébé va être un garçon. Et ça, mes amis, c'est une information que seul l'ange pouvait avoir. Il n'y avait pas d'échographie à cette époque-là. C'est l'ange qui lui dit, le bébé dans le ventre là, c'est un garçon. Alors, j'imagine que Joseph a été impressionné. OK. Ensuite, il apprend de quel nom le bébé va être appelé. L'ange lui dit, écoute, tu l'appelleras Yeshua, Jésus. Alors, je ne sais pas, vous, quand vous donnez des prénoms aux enfants, c'est peut-être le son du nom, la consonance, ou vous trouvez ça joli, et puis il n'y a rien de plus que ça. Mais chez les Juifs, on donnait un prénom, et un prénom, c'était soit une prière à Dieu, « Seigneur, fais que mon enfant devienne ce que son nom veut dire », ou parfois c'était prophétique. « Seigneur, c'est ce nom-là, et il va devenir comme ça. » C'est une sorte de prophétie. Ça avait du sens, les prénoms, dans la culture juive. Et donc, on lui donne le nom de Jésus. Et il découvre la mission de Jésus. Parce que le nom, le prénom Jésus, ça veut dire sauvé. Jésus est envoyé pour sauver. L'ange lui confirme aussi que tout ce qui arrive, c'est l'accomplissement d'une prophétie vieille de 7 siècles. Alors, c'est comme si l'ange lui disait, écoute Joseph, ce qui se passe ici, ce n'est pas un accident. Ce n'est pas un imprévu, ce n'est pas quelque chose, un hasard. Non. C'était prévu depuis longtemps. Une prophétie qui s'accomplit ici. Et sixièmement, Joseph est informé par l'ange de la véritable identité de ce bébé. Qui c'est ce bébé-là? C'est Emmanuel. C'est Dieu avec nous. Imaginez, c'est Dieu avec nous. Alors, arrêtons-nous un instant à réfléchir à ce que l'ange a dit à Joseph. Qu'est-ce que l'ange a dit à Joseph? Eh bien, l'ange, il a prêché l'évangile à Joseph. Voyez-vous cela, là? C'est l'évangile qu'on a ici. L'ange prêche l'évangile à Joseph. Waouh! Extraordinaire! Alors, question. Comment est-ce que Joseph va réagir? Comment est-ce qu'il va réagir au message de l'ange? Alors, le texte dit qu'à la fin de son rêve, quand il se réveille, Joseph va être un homme transformé. Remarquez ça. Un homme transformé. Il a été changé profondément par l'expérience qu'il vient de vivre. Je pense que si vous, pendant que vous rêvez, vous aviez l'apparition d'un ange, vous seriez sans doute changé également. Mais lui, il est changé, là. Marqué, profondément. Qu'est-ce qui se passe ? Au lieu de répudier Marie, il va la prendre chez lui. Au lieu de rejeter l'enfant que Marie porte, il va lui donner le nom de Jésus. Et j'aimerais faire une petite parenthèse et expliquer ici. Dans la culture juive, seul le papa pouvait donner à un enfant son prénom. Vous vous souvenez, Jean-Baptiste ? Il est devenu muet et l'ange lui a dit quel nom il fallait. Sa femme aussi lui a dit, et c'est le papa Zacharie qui donne à Jean-Baptiste son prénom. C'était comme ça. Et là, ici, Joseph, il n'est pas le papa biologique, mais en nommant Jésus, qu'est-ce qui se passe en réalité ici ? Joseph, il montre qu'il adopte Jésus. Et ça, c'est très important. Joseph, en donnant le prénom à Jésus, montre qu'il l'a adopté. Et dans le plan de Dieu, c'est important, parce que le droit légal passe par lui. Voyez-vous ? Joseph adopte Jésus en lui donnant son prénom. Alors, on peut se poser la question, qu'est-ce qui a pu se passer dans le cœur de Joseph pour qu'il change de cette manière-là ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, je dirais tout simplement que Joseph a reçu l'évangile que l'ange lui a prêché. Joseph a cru, d'une certaine manière, on voit ici la conversion chrétienne de Joseph, qui était déjà un croyant juif. Mais l'impact du message, il a cru. Et ça l'a changé. Il a cru à la mission de Jésus également. L'ange lui dit, il va sauver, il fallait que Joseph croie ça. Et il a cru. Et grâce à cette transformation, on voit dans la suite des textes, dans Luc et dans Matthieu, que Joseph n'aura plus désormais la même attitude en face de ceux qui pourraient se moquer de lui. Il va pouvoir affronter les accusations de ceux qui vont dire qu'il a couché avec sa fiancée avant le mariage. Il va pouvoir faire face aux calomnies, aux médisances de ceux qui disent que sa femme l'a trompé avec un autre homme. Pourquoi ? Parce qu'il a cru. Il a accepté le message de l'ange, ce message de l'évangile. Et ça a changé sa pensée. Joseph va assumer le rôle que Dieu lui a donné dans son plan parce qu'il a cru à l'évangile. Il a accepté la mission de Jésus. Pensez-y un instant. J'ai réfléchi à toute cette histoire-là et je me suis dit, imaginez, si Joseph s'était appuyé sur sa sagesse naturelle, s'il s'était fié à ses instincts, à ses feelings, sa femme est enceinte, sa fiancée. S'il s'était fié à ses feelings, à ses instincts, qu'est-ce qui se serait passé ? Eh bien, il serait tout simplement passé à côté du royaume de Dieu. Si Joseph s'était limité à être logique, pratique, pragmatique, eh bien, il aurait loupé l'évangile. Il aurait loupé le salut. Sérieux, hein ? Notre texte nous dit que Joseph, c'était un homme juste, un homme droit peut-être dans certaines traductions. Mais voyez-vous, confronté à la réalité du plan de Dieu, qui est un plan qui nous dépasse et qu'on ne comprend pas toujours, sa justice à Joseph, elle était absolument insuffisante. Sa justice l'aurait amené à faire quoi ? Sa justice l'aurait amené à répudier Marie, tout simplement. Avec sa droiture et sa justice, il aurait répudié Marie. Voyez-vous ? Est-ce qu'on peut s'appuyer sur notre justice ? Il se serait vraiment trompé. Il fallait une révélation de Dieu. Il fallait la foi dans la parole de Dieu que l'ange lui a transmise. Il fallait la venue de Jésus. C'est pareil pour nous. C'est exactement pareil pour nous. Dieu nous a donné sa parole, pas par un ange, mais on l'a ici, la Bible. Et Dieu nous a envoyé Jésus aussi. Et Dieu nous appelle à réfléchir et à répondre comment est-ce qu'on va réagir, nous, à sa parole ? Donc Joseph a cru. Joseph a accepté la mission de Dieu. Petite histoire. Un jour, il y a un pasteur qui se promenait dans un cimetière. Ça arrive parfois, non ? Ça vous arrive ? Promener dans un cimetière. Un pasteur, apparemment, qui se promenait dans un cimetière, et puis il y avait des pierres tombales, là. Hein ? Et puis il y a une des pierres tombales qui a attiré son attention. Pourquoi celle-là plutôt que les autres ? Eh bien, sur cette pierre tombale en particulier, on pouvait lire le prénom d'une personne décédée, évidemment. Mais c'est une triste histoire, parce que c'était la pierre tombale d'un bébé de 6 mois qui était décédé. Triste. Bébé de 6 mois qui s'appelait Mathusalem. Alors, ses parents lui avaient donné ce prénom, j'imagine, parce qu'ils espéraient que leur enfant vive très longtemps. Si vous connaissez la Bible, Mathusalem, dans la Genèse, c'est l'homme qui a vécu le plus longtemps, 969 ans. On voit bien. On donne le prénom de Mathusalem au bébé parce qu'on pense peut-être qu'il va vivre longtemps. Mais imaginez, quelle tristesse, malheureux. Le petit Mathusalem n'a pas vécu la réalité de son prénom. Il est mort à l'âge de 6 mois. Mais pour Jésus, c'est très différent. Pour Jésus, c'est très différent. Le prénom de Jésus veut dire « l'Éternel sauve ». L'ange a révélé à Joseph au verset 21 que c'est lui, Jésus, qui sauvera. Jésus a vécu la réalité de son prénom. Mais on peut se poser la question ce matin, ou cet après-midi ensemble. Sauver de quoi ? Sauver de quoi ? C'est lui qui sauvera. Sauver de quoi ? Si vous posez la question autour de vous, vous allez avoir toutes sortes de réponses. Il y a beaucoup de gens autour de nous qui ne savent pas pourquoi Jésus est venu sauver, et sauver surtout de quoi ? Même les Juifs à l'époque de Jésus, les Juifs attendaient un sauveur politique, vous savez. Ils pensaient trouver un chef militaire, un chef politique, et il allait bouter les Romains hors du pays. C'est une vision humaine, terrestre du salut, ça. Aujourd'hui, plusieurs personnes attendent aussi un salut politique. Alors, on parle d'élections, c'est les primaires, etc., etc. On cherche l'homme providentiel, n'est-ce pas ? Un homme providentiel qui va pouvoir sauver la France de tous ces marasmes, les problèmes économiques, les problèmes de pollution, les problèmes de ci, les problèmes de ça. Vision terrestre, vision humaine. On peut penser que, par exemple, Jésus nous sauve de la pauvreté, ou que Jésus nous sauve de la maladie, ou que Jésus nous sauve de ceux qui veulent nous faire du mal, ou que Jésus nous sauve d'un échec amoureux ou scolaire, ou un échec dans notre travail ou professionnel, ou que Jésus nous sauve du chômage. Et vous, sauvez de quoi ? Alors moi, je dirais que Jésus, bien sûr, dans sa bonté, il peut intervenir dans tous ces domaines, et il y a des gens ici qui pourraient en témoigner, il est intervenu dans tous ces domaines-là. Vous avez prié, vous avez trouvé un emploi, vous avez prié, et vous avez réussi vos examens, etc., etc. Dans sa bonté, Dieu fait cela. Mais Jésus, il est venu sauver l'homme de ses péchés. C'est ça, sa mission. Pourquoi ? Parce que le péché, c'est notre plus gros problème. Notre plus grand besoin, c'est d'être délivré du péché. Parce que le péché nous sépare de Dieu. Le péché attire sur nous la colère de Dieu. Le péché nous condamne devant Dieu. Mission de Jésus, sauver du péché. Et qui est-ce que Jésus vient sauver ? Le texte nous dit que Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Dieu a un peuple dans le monde. Dieu a un peuple formé de personnes de toute langue, de toute tribu, de toute nation. Preuve ici, moi je suis Canadien, il y a des gens de tout peuple, de toute tribu, de toute langue, de toute nation qui sont dans le peuple de Dieu. Un peuple nombreux. Vous lisez l'Apocalypse, c'est comme le sable de la mer, les étoiles du ciel. Un peuple nombreux qui s'est choisi lui-même avant la fondation du monde. C'est ce que l'Épître aux Éphésiens nous dit. Dieu connaît déjà ceux qui font partie de son peuple. Jésus a été envoyé, il est né, il a vécu, il est mort sur la croix, il est ressuscité pour que chacun de ceux qui font partie de son peuple entende l'Évangile. Pour que chacun de ceux qui font partie de son peuple que Dieu connaît soit ramené à Dieu. Et vous allez me poser la question, mais comment est-ce qu'on entre dans le peuple de Dieu ? Comme Joseph. On croit. On accepte la mission de Jésus. Et on change de cap. On change d'orientation. Joseph voulait répudier Marie. Il s'est repenti. Il a cru en Jésus, à sa mission, et il a pris une nouvelle direction. Il a pris Marie et l'enfant avec lui. On se repent et on croit en Jésus. Dieu a un peuple à Saint-Maur. Dieu a un peuple à Val-d'Europe, à Champs-sur-Marne, à Nogent-sur-Marne, à Maison-Alfort, en Chine, en Russie, au Canada, en Algérie. Dieu a un peuple partout. Et Dieu nous envoie, nous, vous, vers ceux qui nous entourent pour appeler ceux que Dieu a choisis à croire en Jésus, pour leur permettre de venir à Dieu. Je ne sais pas si vous avez remarqué, on est au début de l'évangile de Matthieu, et la fin de l'évangile de Matthieu, c'est quoi ? C'est un ordre de mission. Matthieu termine son évangile par un ordre de mission. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Autrement dit, allez chercher mon peuple. Invitez mon peuple à revenir à Jésus. Rassemblez ceux que j'ai choisis pour qu'ils entrent et qu'ils viennent au salut. Jésus est venu sauver son peuple de ses péchés. Et il y a encore beaucoup de ceux qui font partie de son peuple qui ne sont pas encore entrés dans la bergerie. Et notre responsabilité, c'est d'aller les chercher. Sir James Simpson. Vous connaissez ? Moi, je ne connaissais pas trop non plus, mais j'ai lu cette histoire-là, ça m'a interpellé. Sir James Simpson, célèbre médecin écossais qui a vécu au 19e siècle. C'est un homme qui a fait plusieurs découvertes qui ont fait avancer la médecine de son temps. Et même, il a fait des découvertes dont on peut jouir encore aujourd'hui. Alors, c'est lui, par exemple, qui a trouvé les propriétés anesthétiques du chloroforme. Je pense que vous devriez être reconnaissant quand vous allez à l'hôpital qu'on puisse profiter d'anesthésie, n'est-ce pas ? C'est lui qui a découvert ça. C'est lui qui a inventé la ventouse. Il a été un des premiers à promouvoir le rôle des sages-femmes dans les hôpitaux. Encore là, c'est quand même pas mal, non ? Il a aussi amélioré le design des forceps. Mesdames, vous peut-être vous êtes reconnaissantes de ça également. Et monsieur aussi. Un jour, on a demandé à ce docteur Simpson, on lui a demandé « Quelle a été votre plus grande découverte ?» Imaginez, pour un homme qui a fait plein de découvertes comme ça, c'est pas facile de choisir une découverte plus que d'autres. Mais lui, il n'a pas hésité. Quelle a été votre plus grande découverte ? Vous savez ce qu'il a dit ? Que j'ai un sauveur. Ma plus grande découverte, c'est que j'ai un sauveur. Question. Avez-vous un sauveur ? Avez-vous un sauveur ? Avez-vous fait, vous, cette découverte ? Si vous avez déjà fait cette découverte, Êtes-vous prêt à le laisser changer vos projets, comme Joseph, pour que la gloire de Dieu éclate? Êtes-vous prêt à ça? Facile, là, de lire l'histoire de Joseph. Et ça se lit en 3-4 lignes, vite fait. Mais imaginez pour sa vie, pour lui, ce que ça pouvait signifier. Et vous, dans une situation qui pourrait être difficile, vous ne comprenez pas. Êtes-vous prêt à laisser Dieu changer vos projets? Êtes-vous prêt à payer le prix? Vous laissez déranger par ce que Dieu pourrait vous demander de faire, qui ne serait pas facile pour vous. Dernière question pour méditer cette semaine. À Noël, on pense à Emmanuel, qui est Dieu avec nous. Comment est-ce que Dieu avec nous va influencer ta vie cette semaine? Qu'est-ce que ça change dans ta vie de savoir que Dieu est avec nous? On va se terminer dans la prière, s'il vous plaît. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te remercions de ce que, en quelques lignes ici, nous avons le salut. Même avant que Jésus meure sur la croix, il y a tout ici comme en capsule. Seigneur, merci parce que un homme comme Monsieur Simpson a fait cette grande découverte un jour. Merci parce que Joseph aussi a connu ton salut dans des situations, dans des circonstances vraiment difficiles, mais tu lui as donné la foi, tu lui as permis de se repentir et de accepter le plan de Dieu pour sa vie. Seigneur, nous te demandons que nous aussi, nous puissions embrasser complètement le plan de Dieu pour notre vie. Que nous puissions, Seigneur, être prêts à nous laisser déranger par ce que tu voudrais nous montrer. Et Seigneur, si nous ne te connaissons pas encore, si, comme Joseph, nous avons besoin de découvrir ton plan pour notre vie, le sens de Jésus avec nous, celui qui sauve des péchés. Je te prie, Seigneur, que ta parole pénètre profondément dans nos vies et fasse le changement qui est nécessaire pour qu'on puisse, Seigneur, quitter notre droiture et notre propre justice et embrasser, Seigneur, le plan de Dieu pour nous et être complètement transformés. Merci, Seigneur, parce que au travers de ce que Joseph a vécu, c'est ton plan qui s'est accompli et ton plan qui s'est déroulé pour que le salut puisse survenir parmi nous. Seigneur, tu contrôles l'histoire, tu contrôles les généalogies, tu contrôles tous les détails de tout ce qui se passe toujours, à tout moment. Et Seigneur, tu contrôles aussi notre vie et l'Église de Jésus-Christ aujourd'hui. Nous remettons l'Église de Saint-Maur entre tes mains. Nous remettons notre vie entre tes mains. Nous voulons, Seigneur, être ceux que tu envoies pour aller chercher son peuple que tu sauves de ses péchés. Seigneur, tu dis que Jésus, c'est celui qui sauve ton peuple de ses péchés. Et tu veux qu'on aille leur dire à ceux que tu as déjà choisis que Jésus-Christ veut les sauver. Guide-nous, Seigneur. Nous ne connaissons pas ceux que tu as choisis, mais Seigneur, nous voulons être envoyés par toi et croire que tu vas aller chercher tous ceux qui t'appartiennent. Bénis ton peuple. Bénis cette Église. Au nom de Jésus. Amen.